Pourquoi faire de l'emailing pour son entreprise immobilière? Alors, on voit une bonne question. On va tenter d'y répondre. Alors, vous avez déjà dû entendre parler de référencement, de publicité sur les moteurs de recherche, de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Alors, ce sont toutes des techniques marketing qui fonctionnent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais attention, elles demandent quand même beaucoup de préparation pour les mettre en place, mais aussi des compétences que malheureusement, on ne maîtrise pas forcément. Pourtant, à côté de tout ça, il existe un outil qui est assez simple, qui est facile à utiliser et qui peut avoir vraiment un impact qui est considérable sur votre activité. J'ai nommé, roulement de tambour, l'email. Voilà, c'est le sujet de notre formation justement, donc ça tombe bien. J'entends souvent ce préjugé qui dit que l'emailing c'est mort, les internautes le délaissent, le canal s'essouffle et ça va empirer avec le temps, etc., etc. Alors c'est faux. Et les statistiques que l'on a chaque année confirment que l'emailing a encore vraiment de beaux jours devant lui. On va reprendre quelques statistiques intéressantes. Même si je ne suis pas trop chiffre, c'est quand même intéressant. C'est 3,9 milliards de personnes qui utilisent régulièrement les emails. Une autre stat, c'est Sarbacane qui nous la donne, l'éditeur de logiciels, qui nous dit que 94% des internautes consultent au moins une fois par jour leur boîte email. Allez, encore une autre statistique. 72% des utilisateurs de boîtes mail iraient consulter leur boîte jusqu'à 6 fois par jour. Allez, encore une petite dernière. L'email marketing, c'est 28,5% de ROI. Et là, c'est peut-être la statistique la plus importante et la plus intéressante, surtout si vous vous lancez dans l'emailing. Le retour sur investissement est tout simplement le plus élevé parmi toutes les actions marketing possibles. L'email marketing, effectivement, c'est en moyenne 40 fois plus efficace pour obtenir de nouveaux clients que les réseaux sociaux. C'est une étude de McKinsey qui le dit. Donc voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'emailing est loin d'être mort. Il y a simplement une évolution à faire, une adaptation à faire par rapport aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc vous auriez tort, vraiment tort, de ne pas l'utiliser dans le cadre de votre activité immobilière. Alors pourquoi il a autant de succès et que ça continue avec le temps? Ben, c'est parce qu'il est simple à utiliser. Que ce soit pour sa mise en place par le professionnel ou pour la personne qui le reçoit. C'est aussi un outil qui est financièrement vraiment très accessible. On est quand même très loin du coût d'une stratégie de référencement ou d'une campagne de publicité sur les réseaux sociaux, et ça, il faut le savoir. Donc, un des avantages que permet l'emailing, c'est aussi la possibilité d'avoir des métriques qui vont être utiles et pertinentes pour ces campagnes une fois qu'on les a lancées. Donc, ce qui est difficilement possible avec une campagne de boitage, par exemple. Donc voilà, tous ces éléments font que l'emailing, ça reste et ça demeure un outil, une stratégie qui est efficace, les statistiques le montrent, qui fonctionne, qui est assez simple à mettre en place et qui est encore là pour plusieurs années. Donc voilà, on a établi les bases. Il était important de commencer par ça pour que vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'assez futile, ça reste quelque chose d'important et d'utile pour son activité immobilière. Et on va voir dans la suite de cette formation comment vous allez pouvoir mettre en place cet outil pour doper vraiment efficacement vos résultats. Allez, c'est parti pour la vidéo suivante. Alors, dans le module précédent, on a parlé du pourquoi et avant d'arriver au comment, on va parler des objectifs de l'emailing. C'est important. Pourquoi on va parler des objectifs de l'emailing? Parce que on ne fait pas de l'emailing parce qu'il faut faire de l'emailing. On ne fait pas de l'emailing parce que tout le monde le fait. Comme pour toute stratégie, il faut avoir un objectif précis. Et votre objectif, il peut être 1. D'attirer des vendeurs pour rentrer des mandats, ou 2. Je pense que vous m'avez vu venir, d'attirer des acheteurs pour vendre les biens que vous avez en stock. Voilà les deux principaux objectifs que vous pouvez avoir avec l'emailing. Maintenant, on va parler des différents types d'emails que vous pouvez envoyer. En premier lieu, il y a l'email qui va être orienté vendeur. Là, on parle de mails qui permettront de convaincre les potentiels vendeurs de vous choisir, vous, pour vendre leurs biens. Donc, le but, ça va être de montrer votre expertise, pardon, vos compétences, de les rassurer sur votre capacité à les accompagner efficacement et de mettre en avant pour tout ça les témoignages clients que vous avez, etc., etc. Ensuite, il y a l'email orienté acheteur. Là, pour ce type d'email, c'est différent. On va plutôt chercher à aider le client à trouver le bien qui va être le bien de ses rêves. On parle plus d'ici là d'emails contenant des informations qui vont être pertinentes sur le secteur, d'informations sur le processus d'achat, sur les crédits immobiliers, l'actu immobilière sur le secteur, etc. etc. Ben, tout en montrant bien entendu les biens que vous avez en stock. Hein. Et ensuite, il y a les emails qui vont être orientés clients. Ben, là, on parle des mails qui vont être envoyés aux personnes qui sont devenues clients, parce qu'ils ont déjà vendu ou acheté un bien avec vous. Là, le but de ces mails, c'est de garder le contact pour favoriser la recommandation. Et là, c'est très important. Donc, on va envoyer des emails tous les trimestres, par exemple, pour prendre des nouvelles et rester l'agent qui va être numéro 1 dans leur réseau de contact, celui auquel ils vont penser dès qu'ils vont entendre parler d'un projet immobilier autour d'eux. Donc, ça, c'est très important. Il y a toutefois une règle à respecter concernant les emails. C'est celle de toujours proposer du contenu pertinent et intéressant pour votre cible. Sinon, l'internaute, il va être sans pitié et il n'hésitera pas une seule seconde à se désabonner. Et c'est bien là le risque de l'emailing. L'emailing, c'est très facile à mettre en place. On a vu sur la vidéo précédente. Ça permet également d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques. Et dans ces statistiques, vous allez voir qu'il y a un élément qui est quand même important et que vous devez suivre, c'est le taux de désabonnement. Et ça pardonne pas. L'emailing, les personnes ne sont pas en face de vous. Donc, quand vous leur envoyez des informations qui ne sont pas pertinentes pour elles, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elles vous disent au revoir. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ne pas finir dans la corbeille finalement des boîtes mail ou même en email non lu, cette règle que je viens de vous énoncer reste hyper importante. Donc, toujours partager du contenu pertinent et utile pour sa cible. Sinon, ça sera désabonnement direct. Maintenant qu'on a établi les bases par rapport à tout ça, on va passer à la suite. Votre base de données. Alors, on va parler de ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? C'est quoi? Alors, pour faire simple, une base de données, c'est l'ensemble des informations que vous possédez sur votre prospect. Ça peut être des informations de contact classique, hein, mais ça peut aussi être des renseignements un peu plus subtils. Vous pouvez par exemple savoir sur votre prospect si c'est un homme, une femme, si c'est un acquéreur ou un vendeur, si, quel type de logement il souhaite acheter ou vendre, son âge, etc., etc. Ça, c'est un différent type d'informations que vous pouvez obtenir. Vous pouvez par exemple considérer que les informations qui sont contenues dans votre CRM actuel constituent votre base de données. Donc, vous les avez rassemblées là, comme ça, de façon numérique. Et donc, toutes les informations que vous avez sur vos clients sont dans ce même outil. Donc, sont concentrées au même endroit. Donc, maintenant qu'on a fait la petite parenthèse là-dessus, parlons des différents types de leads et de leurs qualifications. Lorsqu'on gère sa base de données, on va catégoriser les leads en fonction des informations que l'on détient sur eux. Et ça, c'est fondamental. Dans la vidéo précédente, on a parlé des objectifs. Les objectifs que l'on peut avoir en faisant de l'emailing. Là, on va pas parler, il faut savoir qu'on ne va pas parler à un acheteur de la même manière qu'on parle à un vendeur ou à quelqu'un qui a été client chez nous, c'est sûr et certain. Ce sont des cibles qui vont être différentes avec des besoins qui vont être différents. Donc là, le but, ça va être de ne pas vous décrédibiliser et de ne pas passer pour un spammeur en envoyant un email complètement hors sujet à sa cible. Donc, on n'est pas des vendeurs de Viagra qui font de l'email de masse, pas du tout. Donc, il est important d'adapter votre communication à votre cible. Encore une fois, je le répète parce que c'est important. Donc, on va différencier deux grands types dans un premier temps de leads. Les leads, pour commencer, qui vont être non qualifiés. Donc, ce sont les personnes qui vont fournir des informations de type nom, prénom, email, sans que vous ayez connaissance de leurs besoins. Donc ça peut être une personne recommandée par un client, une personne qui passe par la page de contact de votre site, pour être appelé, par exemple. Bref, on a l'identité, mais on ne sait pas ce que la personne veut pour l'instant. Donc, lead non qualifié. Lead qualifié. Pour les leads qualifiés, c'est tout l'inverse. On sait que ce sont des prospects qui ont déjà identifié un besoin précis et on le connaît. Ils se sont renseignés via une page de capture pour un bien à vendre, par exemple, ou pour une estimation gratuite. Voilà. Ils ont donc laissé leurs coordonnées, on sait précisément ce qu'ils recherchent, si c'est acheter ou si c'est vendre. Là, on n'est plus dans juste la personne qui nous a donné ses informations, ses coordonnées. On est vraiment dans un processus où on en sait beaucoup plus sur ce dont la personne a besoin et sur ce qu'elle recherche. Donc voilà. Pour faire simple, la base de données, c'est l'ensemble des informations que vous allez avoir sur votre contact. Donc ça peut regrouper le nom, le prénom, l'adresse et des informations, comme on disait, un peu plus subtiles sur les goûts du client, voilà, d'autres informations sur ses passions, etc. Donc ça aussi, ça peut être des éléments qui sont contenus dans la base de données. Pourquoi pas? Ça peut nous permettre d'améliorer encore plus et de personnaliser encore plus la communication qu'on aura avec ce prospect ou ce client. Donc si c'est des informations que vous détenez, n'hésitez pas à les utiliser pour améliorer la façon dont vous allez communiquer avec cette personne-là, notamment via vos mails. Donc voilà pour ce qui est de la base de données. Il va être important de l'étoffer au fur et à mesure en rajoutant des informations sur votre contact. Plus les informations que vous allez avoir sont précises et pertinentes, mieux vous allez pouvoir communiquer et mieux votre message sera donc plus pertinent. Et donc votre impact, l'impact de votre mail sera encore plus important. Et donc si on a un impact plus important, on a des résultats plus importants. D'où l'importance d'avoir une base de données avec le maximum d'informations, mais aussi une base de données qui est saine, où les informations sont mises à jour régulièrement. Voilà pour ce qui est cette petite partie qui concerne la base de données. C'est quand même important de parler de cet élément-là parce que ça constitue quand même le socle de notre stratégie d'emailing, puisque si on n'a pas de base de données, ben on ne peut pas faire d'envoi d'emailing tout simplement. On ne peut pas communiquer efficacement avec ses clients, ses prospects. C'est pour ça que ça me paraissait important d'aborder le sujet et de faire un petit rappel là-dessus, surtout aux personnes qui n'ont pas forcément de connaissances par rapport à ça. Voilà, c'est fait. On va passer à la suite de la formation. Comment organiser sa base de données d'email? Alors, avoir une base de données bien organisée, c'est aussi quand même le meilleur moyen de maximiser son ROI. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de secret. Mais avant de parler d'organisation de sa base d'email, on va quand même revenir sur un aspect qui est assez important. Vous devez disposer, et ça c'est important et non négociable, d'adresses email collectées légalement. Ça paraît évident comme ça, mais je tenais à le souligner. Parce que j'entends souvent parler d'achat d'emails de masse. Il faut savoir qu'acheter une base de données, ça va considérablement impacter en fait vos résultats et pas forcément positivement. C'est même tout le contraire. Et puis il faut savoir aussi que vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts parce que vous allez devoir convaincre en fait des gens qui vous connaissent pas du tout. Qui reçoivent vos mails tombés de nulle part, alors qu'ils voilà, ils savent pas d'où vous venez en fait. Donc, gardez quand même en mémoire que posséder 10 000 emails achetés, ça sera toujours moins pertinent et efficace, c'est surtout ça, qu'avoir 1 000 contacts qui ont été collectés par vos soins directement. Donc ça, c'est important. Revenons sur le sujet, parlons maintenant de la qualification de sa base de données. La qualification des leads, elle va pas s'arrêter à la récolte des informations de contact. On va chercher dans notre base à segmenter vraiment les leads qualifiés qu'on a déjà inscrits. Je vais m'expliquer. Un lead vendeur et un lead acheteur sont tous les deux des leads qualifiés. Pardon, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ils vont pas être situés au même endroit dans notre base. On leur enverra pas les mêmes messages parce que les objectifs vont pas être les mêmes. C'est ce qu'on a vu dans la partie traitant des objectifs de l'emailing. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va diviser notre base en fonction des projets immobiliers des prospects qui se sont inscrits dedans. On va donc avoir des différentes petites listes. Notre base, elle doit différencier d'une part les locataires, les propriétaires, mais aussi les investisseurs, les acheteurs, etc. On pourra ensuite ajouter d'autres critères qui permettront de qualifier encore plus les contacts qu'on a dedans. La qualification des prospects, elle a, disons-le techniquement, il n'y a aucune limite dessus. On peut vraiment toujours chercher à mieux segmenter sa base de données, créer de nouvelles listes, etc. Ce qu'il faut garder en tête et ce qui est important, c'est de trouver pour vous la précision qui convient et qui vous permet d'être efficace dans vos campagnes. Donc, adaptez votre base de données par rapport à vos objectifs, adaptez vos listes. S'il y a des listes qui, pour vous, ne sont pas pertinentes, ben, ne les créez pas. Si vous, je vais dire une bêtise, si vous ne traitez pas avec des acheteurs, allez, on va faire gros, si vous ne traitez pas avec des acheteurs, à quoi bon avoir une base de données qui est segmentée avec vendeurs et acheteurs? Au contraire, utilisez votre, à ce moment-là, prenez la base de données, si c'est juste une base de données de vendeurs que vous avez, prenez-la et segmentez-la. Là, dans cette partie vendeur, vous allez pouvoir faire plusieurs listes par rapport aux différents types de vendeurs. Et là, faites-vous plaisir. Segmentez au maximum, parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, et c'est un des aspects les plus importants quand on fait de l'emailing et qu'on veut que l'emailing fonctionne, la segmentation maximum vous permettra de communiquer de façon plus efficace. Parce que tout simplement, vous allez avoir un type de communication qui est vraiment très, très ciblé par rapport à la segmentation que vous allez faire. Si dans vos vendeurs, vous voulez faire des listes de vendeurs, je ne sais pas moi, de moins de 30 ans, jeunes CSP+, 30 ans, personnes de l'âge d'or, CSP+, aussi peut-être, peu importe, peu importe. Vous pouvez vraiment faire des listes précises et adapter votre communication par rapport à ces listes-là que vous aurez définies. Parce que vous n'allez pas du tout parler de la même manière à la personne qui sera de l'âge d'or et la personne qui sera un jeune actif. Donc voilà, tout simplement par rapport à ça, ça reste important d'avoir une segmentation efficace et intéressante et utile pour vous, pour votre situation. Maintenant que vous savez ça, passons à la suite. Partie 2, allons-y. Alors, voyons ensemble à quoi sert un outil d'emailing. Et oui, on a vu comment construire une base de données, etc. À quoi ça sert. Mais là, concrètement, un outil d'emailing, ça sert à quoi? Alors, une des questions que vous devez vous poser, mais c'est pourquoi on va aller payer un outil qui envoie seulement des emails? A priori, chacun peut faire ça depuis sa boîte mail Gmail ou Hotmail ou Caramel ou non, ça n'existe plus Caramel ou Yahoo, autre chose. Bref, on va pouvoir créer un mail groupé et hop, on envoie avec notre boîte mail perso et puis c'est bon. Alors pourquoi en fait on va perdre son temps à chercher un outil pour faire ça alors que je peux le faire avec mon Gmail? En fait, ce qu'il y a, c'est que les adresses comme Gmail, Hotmail, Yahoo, Caramel, Orange.fr, ce que vous voulez, sont avant tout pensés pour l'usage de particuliers. Donc, pas pour forcément des envois massifs effectués avec votre mail perso. Parce que si vous faites ça, en fait, votre mail que vous allez envoyer va être considéré quasi systématiquement comme illégitime et il va être classé automatiquement dans les spams ou courriers indésirables. La deuxième chose, c'est que ces outils professionnels de messagerie vous permettent d'avoir une multitude de services indispensables que vous ne pouvez pas obtenir quand vous avez une boîte mail dite classique. Je parle par exemple, pour prendre un exemple concret, des statistiques qui vont être générées après chacune de vos campagnes. On va parler des taux d'ouverture de vos mails, on va parler des taux de clics dans vos mails, des taux de conversion, etc. Donc, et vous avez aussi la possibilité de faire des tests AB, de faire des tests de deux mails différents pour savoir lequel a mieux performé, ou encore d'avoir des systèmes de création de mails automatisés. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui font qu'avoir une boîte mail personnelle que vous allez utiliser pour envoyer des emails professionnels, ce n'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée si effectivement vous envoyez une dizaine de mails par-ci, par-là, etc. Quand vous voulez vous lancer dans des vraies campagnes d'emailing avec vraiment une centaine de personnes, 200 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, là, une boîte mail personnelle, c'est pas possible. C'est pas possible, vous allez atterrir dans les spams, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas fait pour. Et puis, vous n'avez pas les statistiques comme on l'a vu précédemment. Donc en fait, vous n'allez même pas avoir de moyen de savoir si vos mails ont performé parce que vous n'aurez pas de stats pour mesurer leur performance. C'est aussi simple que ça. Alors que finalement, le but de l'emailing, c'est quand même d'avoir des statistiques sur les performances des emails qu'on envoie et de pouvoir adapter les emails aux besoins, de faire des correctifs, de pouvoir les modifier, d'ajuster sa stratégie pour pouvoir augmenter ses performances par la suite. Donc, si vous n'avez pas toutes ces statistiques et que vous utilisez une boîte mail classique pour envoyer vos emails et faire des campagnes, non, ça ne marchera pas en fait. tout simplement. Donc on va voir par la suite pourquoi également en fait un outil professionnel est intéressant et surtout indispensable. On va rentrer dans les détails. On va maintenant voir comment fonctionnent concrètement les outils d'emailing. On va aborder plusieurs points par rapport à ça. Alors, il faut savoir que, bon, il n'est pas nécessaire d'avoir de solides connaissances ou compétences en informatique. Les outils d'emailing, ils ont été pensés pour être utilisables vraiment facilement, même pour les débutants. Après, il y a plusieurs niveaux d'outils, bien entendu, mais la plupart des outils sont faits pour que vous puissiez les utiliser assez facilement. Déjà, ça, c'était un premier point. Il faut savoir aussi que l'ensemble des outils d'emailing propose en général plusieurs types de services. Le premier, c'est bien entendu la création et l'envoi d'emails. C'est le truc principal, c'est ce qui nous intéresse, heureusement, parce que c'est ce qu'on va utiliser principalement. Alors, comment ça va se caractériser, cette fonction-là? C'est que vous allez disposer d'interfaces, la plupart du temps, qui vont vous permettre de créer des campagnes sans avoir la moindre connaissance en code, en codage, en développement. Et pour la plupart, les outils de ces outils-là, il suffit en fait de sélectionner un template, c'est un modèle de mail en fait qui va être déjà généré, et de le placer les éléments que l'on veut souhaiter ajouter dessus en faisant un glisser-déposer, un drag and drop dans l'interface de travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est facile, c'est simple, voilà. La seconde chose, c'est l'ensemble des services qui vont être associés à l'envoi des emails. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, de traquer les actions de ce que vont faire les personnes qui reçoivent le mail. Savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien, combien exactement ont ouvert le mail, la moyenne de temps passé sur le mail. Voilà, toutes ces datas-là, elles sont extrêmement précieuses, mais car elles vont vous permettre justement d'adapter votre stratégie d'emailing tout en améliorant aussi le retour sur investissement de vos campagnes. Donc, ces rapports, ils vont vous être fournis automatiquement par l'outil que vous allez utiliser et que vous aurez sélectionné. Et il existe un troisième type de service, entre guillemets, par rapport à ces outils-là. Là, c'est plus optionnel. Mais on va le retrouver de plus en plus de façon native dans les offres basiques. Là, je parle d'automatisation. Certains outils offrent la possibilité d'automatiser ce qu'on va appeler des scénarios de réponse automatique, par exemple. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, on répondait mail par mail et les gens ont vite compris que ça allait être compliqué. Répondre à la main, à chaque demande, voilà, cette époque-là, c'est révolu, plus personne ne fait ça. Aujourd'hui, vous pouvez automatiser l'envoi d'un email automatique avec un calendrier, par exemple, pour que la personne puisse automatiquement choisir une date de rendez-vous. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement automatiser. Automatiser une réponse aussi par rapport à une question précise que quelqu'un vous a posée. De la même manière que si un prospect a cliqué sur un lien qui propose une estimation, vous pouvez prévoir de renvoyer derrière une campagne personnalisée à ce prospect quelques jours après le fait qu'il ait cliqué dessus pour lui dire ah, « Tiens, tu as demandé une estimation, on te propose d'avoir tel type d'information en complément de ta demande d'estimation que tu as faite. » Voilà, ça c'est le troisième type de service que proposent globalement les logiciels d'emailing. C'est un élément qui est très très intéressant, que nous en tout cas chez Immobilier 2.0 on utilise beaucoup, on a beaucoup de systèmes qui sont automatisés. Après, on prend quand même la main pour répondre aux gens, je vous rassure, de manière personnalisée. Mais il y a toute une partie en fait d'informations que l'internaute demande et dont il a besoin tout de suite et que nous, on n'a aucune valeur ajoutée à lui répondre 2 heures plus tard pour lui envoyer la même chose. Donc concrètement, toute cette partie-là d'informations importante pour le client dont il a besoin immédiatement, ben, elle lui est envoyée automatiquement. Donc, à partir du moment où il fait la demande, il reçoit le mail automatiquement. Ça, donc, le service d'automatisation nous permet de faire ça. Et vous pouvez aussi fonctionner de la même manière, par exemple. Et pour les demandes plus spécifiques, là, effectivement, ben, nous, on prend la main, que ce soit moi, Cédric, Quentin, Florian, ben, tout le monde y participe. On prend la main pour répondre à des demandes qui vont être beaucoup plus spécifiques. Parce que il faut bien entendu comprendre que vous ne pouvez pas tout automatiser. On est d'accord. L'idée, ce n'est pas de mettre un robot à la place de tous les membres de votre entreprise. L'idée, c'est qu'il y ait quand même une part de mail qui puisse avoir des réponses qui sont personnalisées. Et ça, c'est indispensable. Mais voilà, c'est juste pour faire la petite parenthèse par rapport à cette fonctionnalité-là d'automatisation. Donc voilà principalement, c'était un petit module rapide pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière les services que proposent ces outils-là de mailing. Maintenant, on va passer à la suite. Un autre élément important qui nous paraissait indispensable à aborder dans cette formation, c'est comment choisir son outil d'emailing, surtout pour un débutant ou pour quelqu'un qui voudrait changer d'outil parce qu'il a eu un outil dédié au départ. Alors, voici nous quelques pistes de ce qui nous semble indispensable pour un outil d'emailing utilisé dans l'immobilier. Alors, les fonctionnalités là que je vais vous présenter, elles sont importantes pour les besoins de notre métier. Il faut bien prendre ça en compte. La première chose, c'est pour un outil efficace, c'est la possibilité de pouvoir créer plusieurs listes, de pouvoir segmenter ces listes. Parce que, encore une fois, et je l'ai dit dans les vidéos précédentes, on ne va pas parler de la même manière à un vendeur qu'à un acheteur. Donc, il faut qu'on puisse, dès le départ, dans la base de données, différencier ces deux typologies de prospects. La deuxième chose, c'est la possibilité de créer des scénarios d'automatisation pour être réactif face à une demande de prospect. On ne va pas être là derrière son écran à attendre et à écrire les mails un par un pour une demande qui va être équivalente d'un prospect à l'autre. Donc, on met en place certains types d'automatisation et il faut que notre logiciel ait cette possibilité-là. Donc, je ne vais pas revenir sur l'automatisation, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je me suis même étalé dessus. Donc, voilà par rapport à ça. Il faut aussi que votre outil de création soit agréable et qu'il ne demande pas de connaissances en code. Pour que vous puissiez créer des emails qui soient design et professionnels sans avoir à y passer des heures ou à vous arracher les cheveux. Ça, c'est important. Une autre chose importante, c'est la possibilité de pouvoir inclure ce que j'appelle des éléments d'interaction, comme des formulaires ou des boutons spécifiques qui vous permettent, par exemple, au prospect, par exemple, de prendre un rendez-vous. Par exemple, si vous avez un bouton rendez-vous, machin, hop, il clique dessus, ça permet de l'emmener sur une page de rendez-vous, etc. Ça, tous les logiciels d'emailing le proposent. Mais voilà, je préfère en parler, on ne sait jamais, il y a encore des logiciels archaïques qui n'ont pas ce type d'éléments. Une autre chose, c'est d'avoir un système de reporting efficace. Les résultats de vos campagnes sont probablement la chose la plus importante. Donc, il faut que le logiciel puisse vous proposer un reporting par rapport à ça. Mais normalement, c'est aussi quelque chose d'assez courant. Il faut aussi que votre logiciel d'emailing soit capable de gérer le format responsive parce que bah, de plus en plus de mails sont directement ouverts sur mobile. Ça, voilà. On a tous des smartphones maintenant et ça devient indispensable. Donc, il faut que sur ce type de device, ça puisse être lu de façon adéquate. Et pour finir, on va parler de délivrabilité. C'est un élément fondamental pour la réussite de vos campagnes. On dit qu'un email est délivré quand il a atteint son destinataire, tout simplement. Et donc, il faut bien vérifier que votre outil, celui que vous allez utiliser, est un outil qui a une bonne délivrabilité, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est des éléments qui sont quand même indispensables à checker, entre guillemets, avant de switcher d'outil ou avant d'utiliser son premier outil. C'est des éléments qu'on vous suggère de regarder parce que c'est des éléments qui vont être importants parce qu'ils vont avoir toute une panelle de fonctionnalités que vous allez utiliser vous dans vos campagnes email et qui vont être utiles parce qu'on va vous faire des recommandations par rapport à certains types de campagnes et qu'on va vous dire d'utiliser certaines fonctionnalités. Si vous ne les avez pas, ça va être compliqué par rapport à cette formation de progresser, d'être efficace. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande ces fonctionnalités-là. Après, si vous avez un outil déjà dédié, que vous utilisez continuellement et qui vous satisfait pleinement, continuez à utiliser cet outil et essayez de le pluguer avec d'autres éléments qui vous permettent d'être plus efficace. Je vais vous donner un exemple concret et précis. Par exemple, si votre outil d'emailing ne fait pas de segmentation, ne vous permet pas de séparer des listes, de faire des listes de contacts différentes, ça m'étonnerait fort, mais admettons que votre outil ne fait pas ça, il faudrait utiliser un autre outil ou une solution qui vous permettra en amont de créer des listes différentes pour envoyer des emails qui vont être adaptés à chacune de vos listes. Voilà, c'est un exemple que je vous donne, mais voilà. Je sais que certaines personnes vont avoir du mal ou de la réticence ou même peut-être pas envie, tout simplement, hein, ça arrive aussi, de changer d'outil emailing. Là, le but, ce n'est pas de vous faire changer, encore une fois. Le but, c'est de vous expliquer quelles sont les meilleures fonctionnalités, en tout cas celles qui nous paraissent indispensable pour effectuer le type de campagne qu'on vous conseille pour qu'elle soit le plus pertinente possible. Donc voilà pour ce qui est de la partie outils. Hein. On est rapidement passé dessus parce que voilà, c'est pas le plus important non plus. Enfin, si, c'est important, mais c'est pas le cœur de la formation. Donc là, on va passer à la suite et là, on va rentrer dans le concret. Alors voilà, c'est la fin de la partie 2. On va faire notre petit récap habituel pour revenir sur ce qui a été vu dans cette partie-là. Donc, premièrement, les outils professionnels de messagerie, ils vous permettent d'avoir une multitude de services indispensables, mais que vous ne pouvez pas obtenir avec une boîte mail dite classique, entre guillemets. Donc ça, c'est important et il faut le garder en tête. Les adresses e-mail personnel comme Gmail par exemple ou Yahoo ou Caramel, Orange.fr, ce que vous voulez, n'autorise pas à faire de l'emailing de masse. C'est important aussi à comprendre. Donc, un outil professionnel pour faire de l'emailing, il va être intéressant parce qu'il va proposer plusieurs fonctionnalités comme l'automatisation, l'AB test, tester deux types de mails différents, l'analyse de statistiques, etc., etc. Il existe des centaines et des centaines d'outils qui permettent d'envoyer des mails. Toutefois, attention, moi je vous conseille un outil professionnel qui est dédié exclusivement à ça, comme MailChimp par exemple, qui est très très connu et qui marche très très bien, ou ActiveCampaign que nous on utilise au sein d'Immobilier 2.0, voilà, secret dévoilé. Et qui fonctionne très très bien aussi et qui là c'est qui est un peu plus considéré, je vais y arriver, excusez-moi, comme un outil un peu plus technique par rapport à MailChimp par exemple, qui sera plus grand public et beaucoup plus adapté aux personnes qui débutent dans l'emailing. Donc voilà, je vais vous mettre à la suite de cette vidéo un benchmark de plusieurs outils d'emailing. Vous pourrez aller regarder, mais principalement, nous, ce qu'on conseille, c'est MailChimp, ActiveCampaign. Ça reste vraiment deux grosses valeurs sûres du secteur. Donc si, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, bien entendu, encore et toujours pour cette formation et pour toutes les autres formations du campus, à poser vos questions via l'onglet de discussion qui se trouve en haut à droite de l'écran. On se fera un plaisir de vous apporter des réponses, surtout si vous hésitez en tel ou tel logiciel ou si vous souhaitez nous poser des questions sur l'outil que vous utilisez actuellement. On se fera un plaisir de revenir vers vous avec des réponses concrètes et pertinentes. On va maintenant passer à la suite, la partie 3, avec là des choses assez intéressantes et croustillantes. Restez avec moi, c'est parti. Alors, commençons cette troisième partie, une grosse partie dans laquelle on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, avant de commencer cette partie, je tenais à vous signaler que nous allons mettre à votre disposition une série de templates clés en main que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer efficacement. Donc voilà. Maintenant, concernant cette partie, je voulais revenir au travers de tous les éléments qui me paraissent essentiels pour vraiment réussir ces campagnes d'emailing. Donc on va passer au travers de tous les points que vous devez optimiser lorsque vous envoyez vos emails. Et le premier point qu'on va aborder par rapport à ça, c'est la mention expéditeur. Alors qu'est-ce que c'est? L'expéditeur, c'est le nom, vous savez, qui apparaît comme étant l'expéditeur du mail que vous envoyez. Il est en général conseillé, en tout cas moi ce que je conseille de faire, c'est de mentionner votre nom, votre prénom et éventuellement le nom de votre agence. Ça permet d'ajouter un caractère quand même humain à son emailing. Ça permet de rassurer le client ou le prospect qui va recevoir ce mail. Ça va aussi générer un sentiment de proximité. C'est un élément qui est essentiel parce que si vos destinataires ont l'impression d'avoir affaire à un robot, eh bien, ils n'auront pas forcément envie d'ouvrir vos mails. Et ça, on le sait, c'est le cas pour tout le monde. Pensez donc à mettre un prénom, voire un nom, avant celui de votre entreprise pour ce qui est de votre adresse de réponse. Il faut savoir que les outils d'emailing, ils vont permettre de renseigner une adresse email de réponse. J'en ai parlé juste avant. Cette adresse, elle recevra tous les mails envoyés par les personnes qui souhaitent répondre à votre courrier électronique. Il va donc être important de ne pas oublier, de ne surtout pas oublier même, d'ajouter une adresse de réponse qui est valide. Mais surtout, que vous la consultiez en fait régulièrement pour ne pas rater des emails qui pourraient être importants. Donc voilà pour ce qui est pardon, de cette mention expéditeur, qui est un des premiers points que je voulais aborder et qui me paraissait quand même très très important. On va passer à la suite, on va parler maintenant du titre, le titre de vos mails. Alors pour le titre, la règle est assez simple. Il faut rédiger un sujet d'email qui va être impactant, un titre qui va être vraiment impactant. Le sujet de votre mail, il est important parce que il fait partie des premiers éléments que vos destinataires vont voir quand ils vont recevoir votre email. Donc, bien faire attention à ça. Pour donner envie aux personnes d'ouvrir votre email, il faut que le titre soit vraiment percutant. Et ça, on en a parlé au début. Dans l'idéal, vous devez éviter de rédiger un titre qui dépasse les 50 caractères. C'est ce qui est conseillé en tout cas. Il doit rester assez court avec des mots qui incitent à l'action, qui suscitent de l'émotion aussi. Voilà. Mais on va vous donner des exemples. Le titre de l'email, il doit rester vraiment clair aussi. Ça, c'est un point important. Parce qu'il faut que le lecteur de votre mail puisse comprendre ce que contient votre mail avant même qu'il l'ouvre. Il faut savoir qu'il existe de nombreux mots qui sont interdits. Des mots qui peuvent en fait emmener votre email à directement être positionné dans les spams. Donc, de façon générale, il faut éviter le vocabulaire trop commercial ou qui incite à cliquer dans le mail ou qui incite à acheter quelque chose. Donc, même si vous êtes de bonne foi, il faut le savoir et je le sais, il existe tellement d'escroqueries en fait par email que les outils sont devenus hyper méfiants. Et dès que votre mail va comporter des mots un peu bizarres, il va être classé directement. Donc ces mots-là, ça peut être gratuit, cliquez ici, acheter, crédit, financement, virement bancaire, qu'est-ce que ça peut être encore? 100% garantie, deal incroyable, revenus supplémentaires, gagner de l'argent, meilleur prix, etc. Donc je suis d'accord, je vous rejoins sur le fait que certains mots sont quand même très utilisés dans le secteur de l'immobilier. Je parle par exemple du mot financement ou encore du mot acheter. Ça, on n'y peut rien. C'est donc, je le comprends, un peu embêtant. Mais avec un peu d'imagination, on peut facilement remplacer ce type de mots. Voici par exemple quelques exemples de titres qui peuvent être facilement remplacés. Si vous avez un titre qui commence par acheter votre prochaine maison, il peut être transformé par venez découvrir votre future habitation, par exemple. Un autre exemple de titre. Si vous avez un titre qui est par exemple trouver le financement idéal pour votre maison, vous pouvez le remplacer par trouver l'institution qui vous accompagnera dans l'acquisition de votre bien. Voilà, ça c'était quelques exemples faciles à utiliser que vous pouvez d'ailleurs reprendre. Hein. Allez, je vous donne quelques autres exemples de titres que vous pouvez utiliser. Par exemple, 15 biens qui valent le détour dans le secteur de Codéran. À Bordeaux. Ou encore, mes conseils pour vendre votre bien rapidement et sans stress. Encore un autre. Trois nouveaux biens à absolument découvrir dans votre secteur. Je vous en donne encore un autre. Guide pratique et simple pour réussir la vente de son bien. Voilà, les modèles d'email que nous allons mettre à votre disposition, ils comportent déjà des titres qui sont optimisés et travaillés. Mais vous pouvez reprendre les titres que j'ai évoqués là il y a quelques instants. C'est des titres qui ont été testés et qui fonctionnent plutôt bien. Parlons à présent du contenu de votre Email, ça aussi, ça va être important. Lorsque vous rédigez votre campagne d'emailing, lorsque vous rédigez votre mail, vous devez prioriser l'information. L'information la plus importante doit être en haut de votre emailing. Tentez autant que possible de faire tenir les informations importantes dans les 600 premiers pixels du haut de votre emailing. Il ne faut pas que vous forciez le lecteur à scroller, c'est-à-dire à tourner la molette de la souris jusqu'en bas pour accéder à ce qui va l'intéresser. Le client ou le prospect doit avoir accès, doit savoir directement ce à quoi il va pouvoir accéder. Ça doit être central, ça doit être vraiment le premier truc qu'il voit. Donc voilà, garde en tête que ces éléments-là doivent rester en haut de votre mail. Ensuite, la charte graphique. La charte graphique adoptée doit être en concordance avec celle de votre entreprise pour que le prospect ou le client qui ouvre votre mail ne soit pas totalement perdu, pour qu'il puisse reconnaître d'un coup d'œil à qui il a affaire. Ensuite, on va parler des informations qui sont un peu plus bas dans votre mail. Les informations basses sont là pour compléter votre argumentation afin de convaincre les personnes qui seraient un peu plus sceptiques. Vous devez dérouler votre discours commercial comme vous le feriez si vous étiez en face d'un client. Donc, on commence par frapper hyper fort avec les arguments qui sont vraiment solides, les arguments de poids. Et on affine ensuite pour rassurer et lever les premières objections avec le reste du mail. Autre point important, vous pouvez également rappeler en fin de mail pourquoi votre client reçoit cette newsletter avec une phrase du type « Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit pour recevoir nos offres concernant patati patata ». Parce que parfois, ils oublient et ils considèrent que c'est du spam alors qu'ils se sont bien inscrits pour recevoir vos mails. Donc voilà, c'est une mention que l'on va placer généralement juste en dessous du bouton de désinscription. Une option que vous devez obligatoirement, bien entendu, proposer aux personnes qui reçoivent vos mails, l'option de désinscription. Donc voilà pour ce qui est un peu de la structure de votre mail. Donc je rappelle les informations importantes, cruciales, tout en haut. Et ensuite, vous déroulez votre argumentaire commercial dans le reste de votre mail avec les informations les moins importantes tout en bas. L'appel à l'action. On va parler de l'appel à l'action, ce qu'on appelle aussi le call to action. Alors, l'objectif principal de l'emailing est de provoquer une action de la part de vos lecteurs, de vos prospects, de vos clients. Il faut que vous les ameniez à effectuer une action à la réception de votre email. C'est exactement la raison pour laquelle le call to action est indispensable pour chaque emailing. Donc, ces boutons, ils doivent expliquer clairement l'action que l'internaute va devoir réaliser. Soyez clair là-dessus. Et par rapport à ça, il faut privilégier autant que possible les verbes d'action du type prendre rendez-vous ou encore réserver une visite. Voilà, ça incite la personne à effectuer l'action. Si on ne met pas d'action à réaliser dans le premier écran, l'internaute risque en fait de ne pas comprendre ce qu'il doit faire face à votre mail. Il va ouvrir votre mail, voir qu'il y a beaucoup de texte, mais il ne va pas forcément comprendre ce qu'il doit faire par la suite. Donc, n'oubliez pas d'insérer des appels à l'action, c'est hyper important. Au-delà des boutons d'appel à l'action, des gros boutons que vous mettez en avant sur votre mail, il y a aussi des liens que vous pouvez mettre dans votre mail, des liens qui renvoient vers des éléments spécifiques. Alors, concernant ces liens, il y a quand même plusieurs éléments que vous pouvez rendre cliquables, sur lesquels vous pouvez mettre des liens. Premier élément, c'est vos images. Elles doivent renvoyer vers l'annonce ou le contenu qu'elles présentent. Et ça, c'est important. Il n'y a rien de plus frustrant que de cliquer sur un élément et qu'en fait, il renvoie vers rien. Ensuite, on va parler de votre logo et le nom de votre marque, par exemple. Ils doivent renvoyer aussi vers la page d'accueil de votre site internet si vous en avez un. Les titres des annonces et des contenus que vous partagez, ils doivent aussi renvoyer vers le contenu dont vous parlez, notamment, vers un portail par exemple, où on retrouverait les informations concernant votre annonce. Et les logos des réseaux sociaux, bien entendu, qui renvoient vers vos différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ce qui est des liens. Donc bien faire attention que vos liens sont bien cliquables et qui renvoient vers le bon contenu. Ensuite, autre élément qui a son importance, c'est la possibilité ou l'obligation d'adapter vos emails au mobile. Voilà, la majorité des emails sont lus sur mobile à présent et c'est un phénomène qui va continuer de s'accroître, qui va continuer d'augmenter. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la conception de son emailing. Il faut que vous optimisiez votre mail pour le mobile. Donc, évitez les images qui vont être trop grosses ou qui vont dépasser lorsqu'on va regarder sur mobile, etc. Et ne mettez surtout pas, je vois beaucoup ça, je tenais à le préciser ici, ne mettez surtout pas 15 photos de biens qui mettront énormément de temps à charger. Essayez plutôt de mettre les photos les plus pertinentes et de renvoyer vers une page où il y a beaucoup plus d'éléments. Donc voilà. Attention également aux textes qui sont trop longs et qui seraient pénibles à lire sur un smartphone, ce qui ferait décrocher plus rapidement les lecteurs. Donc ça aussi, c'est un élément important. Il faut savoir que la plupart, les principaux outils, j'allais dire, mais la plupart des outils d'emailing vont vous proposer de base des templates ou vont adapter automatiquement votre contenu au format responsive. Donc, utilisez la fonction si vous l'avez. C'est d'autant plus efficace que vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même à la main. Prenez toujours l'habitude de tester vos campagnes sur ordinateur et sur mobile. Envoyez-vous un mail test pour voir si tout s'affiche correctement. Il faut savoir que le moindre changement des fois sur votre emailing peut totalement décaler votre email et ne pas être correctement visible sur un mobile par rapport à un ordinateur. Donc toujours vérifier avant l'envoi, toujours vérifier le format responsive que tout est bon avant de faire votre envoi d'email. Un autre élément qui est important dont on va parler également, c'est le format de vos mails. On vient de parler du design responsive pour mobile, c'est un élément qui est important et qui du coup me conduit à vous parler d'un autre point, le format de vos mails. Qu'est-ce que j'entends par format ? En fait, c'est l'apparence globale, le design de votre email. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à ça, on pense souvent en fait qu'un mail doit avoir un design qui est ultra tendance avec des images dans tous les sens et des effets qui sont extraordinaires, etc., etc. On pense qu'il faut qu'il soit super beau pour qu'il soit agréable à lire. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ce type de mail active chez nous et chez toutes les personnes qui les reçoivent plein de petits voyants rouges. On voit tout de suite en fait qu'il s'agit d'un mail qui va être promotionnel ou où on va essayer de nous vendre un truc. Quand c'est trop beau, quand c'est trop design, c'est toujours ça qu'on a en tête. Donc, étant donné que c'est quelque chose qu'on veut éviter, qu'on veut que nos mails soient lus en entier et que les gens passent à l'action, il faut savoir que l'objectif que vous allez devoir faire, ce que vous allez devoir mettre en place en tout cas, c'est des emails qui soient simples visuellement pour que le destinataire puisse se concentrer sur le message que vous voulez délivrer et non pas la forme, le design de votre mail. Donc, vous l'avez compris, le plus important, c'est votre texte et le message que vous allez envoyer. Donc, évitez d'intégrer, encore une fois, évitez d'intégrer trop d'images ou même des vidéos directement dans vos mails. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un format simple qu'on appelle aussi le format plain text. C'est un format de texte assez brut, hein, qui est simple à utiliser et qui a l'avantage de ne pas demander de compétences techniques pour sa mise en place. C'est vraiment un format qui est ultra simplifié et qui va faire le focus sur le texte. Donc, ce format, il fonctionne super bien parce qu'il se rapproche visuellement de l'apparence des mails personnels que les gens reçoivent. Donc voilà, privilégiez ça. Ne faites pas trop compliqué, faites simple, utilisez ce format plain text. Ensuite, ce que je vous préconise de faire, un élément qui est très important, c'est de toujours vérifier vos mails avant chaque expédition. Il faut le savoir, un emailing ne s'affiche pas du tout de la même façon d'une messagerie à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous réalisiez des tests. Faites toujours au moins un ou deux envois de tests de votre mail pour voir le rendu final avant de l'envoyer à toute la liste que vous aurez choisie. Si vous possédez plusieurs boîtes email, Outlook, Gmail, Hotmail par exemple, n'hésitez pas à vous envoyer des tests à ces différents endroits pour voir précisément comment ils s'affichent. Ça vous permettra de comparer les rendus et de les optimiser si besoin. Et on a parlé tout à l'heure du format responsive. Faites aussi des tests sur des envois sur ordinateur que vous allez ouvrir sur votre ordinateur et aussi ouvrez vos mails sur votre téléphone portable pour vérifier que tout fonctionne bien. Vérifiez également les liens que vous avez mis. Vérifiez que tous les éléments que vous souhaitez qu'ils soient cliquables le sont réellement et qu'ils renvoient vers le bon endroit. Vérifiez également le call to action puisque c'est le but de votre mail. Si votre mail est centré vers une action que doit faire votre prospect ou votre client, si le bouton ne renvoie pas vers la bonne action, vers le bon contenu, vous aurez fait un mail entier pour rien. Donc voilà, ne soyez pas trop pressé de délivrer votre message à votre prospect ou à votre client en allant trop vite. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Au contraire, vérifiez vraiment plusieurs fois, proposez même à quelqu'un d'autre de vérifier votre mail avant de l'envoyer. Dernier élément qui a quand même son importance, c'est qu'il faut nettoyer votre base de contact régulièrement. Pour optimiser ces campagnes emailing, il n'y a rien de mieux que de conserver une base de contact qui va être saine. Pour cela, il faut que vous évitiez d'avoir des doublons, donc essayez d'enlever les doublons, les emails erronés, les emails qui sont plus actifs. Donc voilà, une base de données bien nettoyée vous permettra de faire remonter votre taux de délivrabilité et ça c'est important. Si possible, essayez de corriger les éventuelles fautes d'orthographe dans les emails si vous envoyez. Ça vous permettra d'assainir votre liste de contacts également. Je sais que ça peut prendre du temps, mais vous y verrez beaucoup plus clair et vos résultats seront meilleurs. Ça fait partie des éléments dont je parlais qui permettront d'assainir votre base de contact. Voilà, par rapport à tout ça, cette partie, effectivement, elle reprenait tous les éléments, tous les points essentiels à vérifier lorsque vous faites de l'emailing. Ces éléments-là, il faut garder en tête qu'ils vont être vraiment, importants parce que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats à chaque envoi d'emailing. Et si tous ces éléments-là, point par point, sont vraiment optimisés, vous verrez que vos résultats ne seront que meilleurs. Donc voilà, cette partie 3 elle est assez courte parce que voilà, il n'y a qu'une seule vidéo et c'est une vidéo où on parle vraiment de tous les aspects de vos emailings. Maintenant, on va faire un petit récap de cette partie-là et puis on va passer à la suite de la formation. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit résumé de cette partie 3. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir ces campagnes d'emailing? Alors, on va revenir au travers de tout ce qu'on a vu. Alors, il faut penser à mettre un prénom, voire un nom, avant celui de votre entreprise dans la case expéditeur. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça permettra un peu d'humaniser votre échange avec vos prospects et vos clients. Il ne faut pas également oublier d'ajouter une adresse de réponse valide et la consulter régulièrement pour ne pas rater des mails qui pourraient être importants. Ensuite, on a parlé du titre de l'email. Il doit être assez clair afin que le lecteur puisse comprendre ce qu'il contient avant même d'ouvrir le mail en question. Attention toutefois aux mots interdits, on en a parlé. L'information de votre mail, le contenu, l'information la plus importante doit être en haut de votre emailing. Les informations basses sont là pour compléter votre argumentation afin de convaincre les personnes qui seraient un peu plus sceptiques. Le call to action maintenant. Le call to action est indispensable, c'est l'appel à l'action. Il doit être contenu dans chacun de vos emails parce que l'objectif principal de l'emailing est de provoquer une action de la part de vos prospects, de vos clients. Votre email, il doit être adapté également au mobile. Donc attention à la taille de vos paragraphes et à la taille de vos images. Optez pour un format de texte qui va être plutôt brut et qui va être simple à utiliser et qui a l'avantage de ne pas demander de compétences techniques pour sa mise en place. Également, un point important, c'est de vérifier votre mail avant chaque expédition. Ça, c'est non négligeable. Il faut faire bien attention à ce qu'on envoie. On a parlé aussi du fait qu'il soit indispensable, qu'il faut que ce soit systématique, le fait de nettoyer sa base régulièrement. Une base de données bien nettoyée vous permettra de faire remonter votre taux de délivrabilité, mais aussi de faire, d'avoir une performance beaucoup plus intéressante sur l'envoi de vos mails, puisqu'on va enlever tous les mails entre guillemets pollués qui ne vous servent à rien pour le coup et qui viendront baisser vos stats. Donc voilà, c'était une partie, comme je vous le disais, assez rapide. On est revenu au travers de tout ce qu'on a vu dans le module précédent. N'hésitez pas à refaire un point à chaque fois que vous faites un mail là-dessus. Vous allez trouver par ailleurs une petite checklist des éléments que vous allez devoir vérifier avant chaque envoi d'email, avant chaque préparation de campagne. Donc voilà, imprimez-vous ce petit document-là et cochez à chaque fois pendant que vous êtes en train de préparer votre campagne d'emailing, cochez chaque point pour être sûr de n'avoir rien oublié. On va passer à la quatrième et dernière partie de cette formation. C'est parti, à tout de suite. Alors, nous sommes déjà à la partie 4 et on va parler de statistiques. Alors, quel que soit le logiciel d'emailing que vous utilisez, vous aurez accès à de nombreuses données, de nombreuses data au sujet de vos campagnes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous trouverez par exemple les taux d'ouverture, les taux de clics, les liens cliqués, les contacts qui n'ont pas pu recevoir vos messages, les contacts erronés, les indélivrables, la localisation aussi de vos lecteurs, où ils se trouvent, de vos prospects, de vos clients, pardon, qui reçoivent votre mail. Donc, avec ces statistiques détaillées, vous pourrez savoir si votre emailing a bien fonctionné ou pas. Ces statistiques, en fait, elles constituent une véritable mine d'or, vraiment, à exploiter dans le but de booster encore mieux vos campagnes d'emailing. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Au départ, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous présenter les stats vraiment détaillées et je me suis dit finalement que ça n'allait pas forcément être pertinent. Pourquoi ? Parce que chaque outil d'emailing présente les stats de façon différente. Même si globalement, les datas sont les mêmes, chaque outil est différent. Donc, ce n'était pas forcément pertinent de vous montrer les stats par rapport à un outil précis. Mais on va revenir au travers de différents éléments de statistiques. On va parler d'un premier élément qui est un des éléments les plus importants. On en a parlé un tout petit peu dans les vidéos précédentes, mais c'est la délivrabilité. La délivrabilité, je reviens rapidement là-dessus, c'est le fait que vos mailing soit distribué avec un taux de distribution qui normalement devrait se rapprocher des 90-100. 90-100, 100 c'est que tout le monde a bien reçu votre mail, mais ça n'arrive quasiment jamais parce qu'il y a toujours des erreurs au niveau des adresses email comme on a vu, des adresses email erronées, des adresses email qui ne sont plus valides. Etc., etc. Donc, la délivrabilité, c'est quelque chose qu'il faut quand même travailler et qui va aussi dépendre de votre outil, en fait, de l'outil que vous utilisez. Effectivement, suivant, l'outil d'emailing que vous utilisez, la délivrabilité ne va pas être la même. Donc, bien faire attention. J'en parlais lorsqu'on parlait du choix de son outil d'emailing. Bien faire attention que vous utilisez un outil qui est dédié à l'emailing. Parce qu'on a souvent en fait des outils que l'on utilise qui font un peu tout, c'est-à-dire qu'on va prendre un CRM, mais qui va aussi proposer une fonction d'envoi d'email. Généralement, ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas un outil qui va être spécialisé dans l'envoi d'email. Donc voilà, moi ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser autant que possible un outil spécialisé. Les outils spécialisés dans l'envoi d'email, ils sont vraiment faits pour ça. Vous allez avoir une délivrabilité qui est vraiment bonne sur ces outils-là, contrairement à d'autres outils qui vous proposent ça en option et qui, pour le coup, sont pas forcément mieux ou sont pas forcément au niveau des outils spécifiques pour ça. Donc, bien faire attention à ça, la délivrabilité, et ce qui va permettre de l'améliorer, c'est notamment d'avoir une base de données saine. Je reviens encore une fois là-dessus. Je sais qu'on en a parlé tout au long de cette formation, mais avoir une base de données saine, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va vraiment impacter vos statistiques de façon globale. Donc voilà, on a parlé de la délivrabilité. Parlons maintenant également d'une autre statistique qui est importante, c'est le taux de clic. Le taux de clic, on a aussi un tout petit peu évoqué dans la formation, c'est le nombre de personnes qui cliquent en fait sur votre mail par rapport au nombre de personnes qui l'ont reçu. C'est le ratio en fait. qui est fait entre le nombre de personnes qui reçoivent le mail et le nombre de personnes qui ont cliqué sur, dans un élément qui est contenu dans ce mail. Donc quand j'ai dit qu'ils reçoivent le mail, c'est bien entendu qu'ils l'ont ouvert, hein, parce que pour cliquer dans le mail en question, sur le lien, il faut qu'il ait ouvert. Donc voilà ce qui est le taux de clic. Donc c'est un élément que vous pouvez optimiser en utilisant tout ce que je vous ai recommandé, notamment dans la partie 3 de cette formation. Donc vous allez voir que plus votre mail sera optimisé, plus le taux de clic sera intéressant. Et qu'est-ce que j'entends par optimisation de mail? On ne va pas forcément revenir là-dessus, mais on l'a vu dans la partie précédente, mais c'est bien faire encore une fois attention à ce que les informations importantes se trouvent dès l'ouverture de votre mail, donc en haut de votre mail, et qu'il y ait toujours un call to action, et que votre mail utilise le format plutôt plain text. Tous ces éléments-là, c'est des détails, mais ça va vous permettre d'améliorer effectivement le taux de clic. On a parlé du taux de clic et quand je vous parlais du taux de clic, je vous parlais des personnes qui ouvraient vos mails et ça, c'est un des éléments hyper importants aussi, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est le ratio entre les personnes qui vont recevoir votre mail et les personnes qui vont effectivement ouvrir votre mail pour le lire. Donc ce ratio-là, c'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Et le taux d'ouverture, c'est aussi un élément qui est important parce que mine de rien, les boîtes email des personnes qui reçoivent les mails que vous vous envoyez, les boîtes email des récepteurs, ces boîtes-là, ça peut être Gmail, ça peut être Hotmail, ça peut être même des boîtes mail professionnelles, elles vont analyser en fait si la personne qui reçoit le mail ouvre régulièrement le mail ou pas, ou si elle ne l'a jamais ouvert, etc. Et elle va aussi faire un point par rapport aux statistiques entre guillemets globales de vos mails, s'ils ont été ouverts par d'autres personnes ou pas. Et ça va rentrer en jeu pour savoir si vos mails futurs vont aller dans les spams ou dans les courriers indésirables. Donc le taux d'ouverture, c'est hyper important parce que, je reviens dessus, un, c'est quand même sympa d'envoyer des mails et de savoir que les gens les ont ouverts, que les gens les ont lus. Deux, c'est aussi important pour vos statistiques pour ne pas finalement au fur et à mesure du temps tomber dans les spams parce que la plupart de vos clients, de vos prospects n'ouvrent pas vos mails. Donc voilà, c'est aussi un élément qui est extrêmement important. Donc ça, c'est on va dire vraiment les principales actions, les principaux éléments que vous devez surveiller. Après, il y a beaucoup d'autres data que vous pouvez avoir, mais ça, si vous rentrez dans des éléments vraiment où vous allez aller chercher des stratégies encore plus poussées en utilisant ces data-là. Mais ce qu'il faut principalement regarder de façon régulière, c'est le taux d'ouverture de vos mails, la délivrabilité, le taux de clic. Et voilà, ces trois éléments-là, c'est vraiment le socle des data qu'il faut analyser pour faire des correctifs pour pouvoir améliorer vos emails. Et une fois que vous aurez vraiment optimisé à fond ces trois éléments-là, là on pourra passer sur l'étape d'après qui sera vraiment des optimisations un peu plus poussées concernant vos emailing. Donc voilà pour cette partie-là. Elle est un peu comme la partie 3, elle est assez courte parce que vous parlez que de stats, etc. Je pensais pas que j'avais l'impression que j'avais en tout cas le sentiment que ça n'allait pas être hyper intéressant pour vous. C'est pour ça que je voulais revenir sur trois statistiques importantes. Si vous avez des questions, vous, par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me les poser via l'onglet de discussion qui se trouve en haut à droite de votre écran. Si vous avez des stats, vous, par rapport au logiciel, à l'outil que vous utilisez, que vous ne comprenez pas que vous souhaitez que je vous aide sur la compréhension de ces différents éléments, de ces différentes datas que vous pouvez obtenir, n'hésitez pas à utiliser pareil l'élément de discussion qui se trouve en haut à droite et on va pouvoir échanger par rapport à ça. Je vais pouvoir vous aiguiller. Donc voilà, concernant cette partie, cette partie-là, cette dernière partie, la partie 4, elle va marquer la fin de cette formation. On est revenu vraiment au travers de beaucoup, beaucoup de choses. Et le dernier module, ce sera le module de conclusion où on va faire vraiment une conclusion générale de tout ce qu'on a vu durant cette formation sur l'emailing. Allez, à tout de suite pour conclure tout ça. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette formation. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que tous les éléments qu'on a mis à votre disposition vont vous servir, vont vous permettre d'améliorer vos campagnes, vont vous permettre de créer aussi des campagnes pour des personnes qui n'avaient jamais encore beaucoup utilisé l'emailing. Il y a toujours un élément qui reste important, c'est le bouton discussion qui se trouve en haut à gauche de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. Donc voilà, on est passé au travers de tout ce qui avait, de tout ce qui était important quand on voulait mettre en place une solution d'emailing. On est passé au travers de pourquoi c'est important d'utiliser l'emailing, de comment l'utiliser, de à quoi ça sert, de quel outil mettre en place, quel outil privilégier, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ses emails. On a même mis à votre disposition des templates prêts à l'emploi, des textes que vous pouvez réutiliser, des exemples de titres. Voilà, avec tout ça, vous devriez être capable de préparer des premières campagnes qui, je l'espère, vont avoir de bons résultats. N'hésitez surtout pas à mettre mon adresse email, à inscrire mon adresse email dans vos campagnes d'emailing. Comme ça, moi, ça me permettra, je laisserai mon adresse en dessous de ce module de conclusion. Ça me permettra de voir les emails que vous envoyez et je me permettrai, si vous le voulez bien en tout cas, de vous donner des petits conseils par rapport aux campagnes d'emailing que moi je reçois. Ou n'hésitez pas, vous, si vous avez des campagnes d'emailing que vous envoyez, à me demander des conseils par rapport à la campagne en question. Donc, je me ferai un plaisir de revenir vers vous par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas faire une trop longue conclusion. Je pense que la formation a permis de revenir au travers de vraiment tous les éléments. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir choisi le campus pour vous former. C'est toujours un plaisir vraiment de préparer ces formations pour vous. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle formation. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi des idées de formation que vous souhaitez que l'on mette en place dans le futur, n'hésitez pas à toujours m'envoyer un message, utiliser l'onglet discussion. C'est toujours un plaisir, vraiment, c'est réel. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous par rapport à ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci à vous. Bonne continuation sur les formations du campus et à très bientôt, j'espère. Au revoir.